Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un super week-end magique et que vous êtes en pleine forme pour démarrer une nouvelle semaine emplie d'enchantement et de belles choses. Voilà. Alors, ce matin, je vais parler d'un sujet que m'a demandé, c'est un sujet très intéressant que j'aime beaucoup, que m'a demandé Julie, ma petite Julie. Et c'est un sujet qui est vraiment peu abordé et qui est pourtant quelque chose de super magique. Ce sont les Hagstones. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces pierres magiques. Et si vous en avez entendu parler et que vous voulez en savoir plus, ou que vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous invite à écouter le podcast de ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Hagstone? Une Hagstone, c'est une pierre percée. Alors, elle peut être de n'importe quelle origine. Ça peut être un silex, comme ça peut être une pierre calcaire ou un galet. C'est enfin, n'importe quel type de pierre peut être une Hagstone tant qu'elle possède un trou formé naturellement. Et si vous avez la chance d'en trouver une, eh bien, considérez-la dorénavant comme un objet sacré. Alors les Hagstones portent d'autres noms. Les Witch Stones, c'est-à-dire les pierres de sorcière, Adder Stones, les pierres de vipère, Snake Eggs, les œufs de serpent, Odin Stone, la pierre d'Odin, Fairy Stone, les pierres de fées, Holy Stone, les pierres sacrées, Holy Stones, les pierres trouées et Eye Stone, la pierre des yeux, parce que l'on peut voir, enfin qu'on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, on peut regarder à travers pour voir le royaume féerique. Alors, où peut-on trouver une Hagstone? Alors, on peut en trouver n'importe où, en fait, parce que moi, j'en ai même trouvé parfois en me promenant juste dans l'allée de ma maison. J'en trouvais plein à un moment, donc j'étais très heureuse parce que je me dis, tiens, elles viennent à moi. Donc chic, chic, chic. J'étais très contente. Donc j'en ai une bonne collection de Hagstones, dont certaines que je porte d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi les trouver, et on les trouve d'ailleurs beaucoup plus fréquemment, dans les rivières ou dans leurs lits asséchés ou alors au bord de la mer. Parce que c'est l'action de l'eau courante, l'action de l'eau en mouvement qui provoque l'érosion et qui entraîne donc cette apparence de la pierre avec le trou, en fait, qui troue la pierre. Cependant, dans certaines régions qui autrefois ont été des régions recouvertes par la mer, donc il y a des siècles, on trouve des pierres percées. C'est pour ça qu'on en trouve un peu partout finalement, parce que la mer s'est retirée. Les pierres sont remontées à la surface au fil du temps, et donc on les trouve où j'habitais auparavant. Donc c'était une région qui était sous l'eau, qui était sous la mer il y a des. À l'époque préhistorique, même bien avant. Donc la pierre remontait à la surface, c'est pourquoi j'en trouvais aussi fréquemment en fait. Et quelle est la raison pour laquelle ces pierres percées sont si recherchées et si précieuses? Eh bien, c'est simplement parce que en magie, on a beaucoup de mal à, entre guillemets, je dirais pas capturer, parce que c'est pas le bon. En magie, on capture rien, puisque c'est hors contrôle. On travaille toujours hors contrôle. Enfin, pour les vrais, je veux dire. C'est pas qu'on. Mais c'est que la magie de l'eau, elle est difficilement canalisable, parce que l'eau est fluide, l'eau est courante. On a beaucoup de mal à retenir l'eau. En région, quand il y a des inondations, tout ça, on peut rien, quasiment rien faire. Il faut que la terre l'absorbe, ou il faut qu'elle soit évacuée, drainée, c'est très compliqué. Ou qu'elle décide de se retirer elle-même. Donc la magie de l'eau est une magie en plus très dangereuse, donc on ne peut pas manipuler l'eau comme ça, hein, voilà. Donc en fait, ces pierres sont très précieuses parce qu'elles sont imprégnées de la magie de l'eau, en fait, qui a passé des jours, des jours, des jours, des années, des milliers d'années à creuser ces pierres pour les rendre si belles et si enchantées en fait. Et là, l'eau a complètement imprégné de son pouvoir ces pierres magnifiques en fait. Donc, ce qui en fait ce qui fait je veux dire, de la Hagstone une amulette de protection absolument incroyable, mais bien plus encore. Alors, le nom de Hagstone, qu'on peut traduire, qui est équivalent de Witchstone, donc pierre de sorcière, provient en partie des croyances très anciennes, parce qu'on pensait que la plupart des maladies qu'on pouvait guérir en utilisant cette pierre, en la portant ou en l'accrochant sur le lit du malade, était à l'origine causée par des sorcières qui étaient passées dans l'autre monde. Alors, dans d'autres endroits, ces pierres magiques sont appelées Heatherstone parce qu'elles sont censées protéger ou guérir des morsures des serpents. Et dans certaines, c'est une légende allemande, une légende germanique, qui dit que ces pierres se forment lorsque les serpents se rassemblent et utilisent leur venin pour créer des trous au centre de ces pierres. Et c'est pour ça qu'on les appelle également snake egg, c'est ma dyslexie, excusez-moi, donc les œufs de serpent. Et ces pierres étaient absolument prisées par les druides, parce que ces pierres ont un grand pouvoir. Quand elles étaient trouvées dans un nid de serpent, elles étaient vraiment portées par ces praticiens de la magie, donc les druides anciens, les très chez les Celtes, parce qu'elles possédaient en ces cas-là des pouvoirs inestimables. Alors, elles sont donc couramment utilisées dans les campagnes, enfin elles l'étaient du moins, comme talisman pour contrer les magies de sorciers, les magies sorcières. Et donc elles peuvent être utilisées pour conjurer les morts, les malédictions, les maladies, mais également les cauchemars. On peut en porter une la nuit pour ne pas faire de cauchemars. On leur donne aussi le pouvoir de voir les créatures du pays des Fae et à ouvrir des fenêtres sur les autres royaumes. Elles sont également extrêmement puissantes dans la magie de guérison, puisque l'eau est l'élément de la guérison. Et il y avait aussi un sortilège de magie lié à la fertilité qui demandait que l'on attache une pierre trouée au montant du lit pour faciliter la grossesse. Bon, ça, ce sont du folklore. Vous savez que j'aime toujours parler des folklores quand je raconte mes histoires, parce que j'adore le folklore, en fait. J'ai passé mon enfance quasiment à dévorer des livres de folklore du monde entier. C'était ma passion. J'avais déjà des grimoires à l'époque, quand j'étais petite fille. Et donc, dans mes grimoires, je relatais toutes ces légendes folkloriques que je voyais dans tous les livres. J'avais des folklores scandinaves, des folklores du désert, d'Afrique du Nord. J'adore la magie d'Afrique du Nord parce qu'elle est très puissante. C'est quelque chose d'incroyablement beau et fort. Enfin, j'avais donc ces livres qui parlaient donc du folklore qui me provenait de mes grands-parents, de ma grand-mère qui était sorcière, et donc et de mon arrière-grand-mère, etc. Et je veux dire qu'elles avaient conservé parce que dans ces livres folkloriques, il y avait tout plein d'histoires se rattachant à la sorcellerie, à la magie. Et donc, je passais mon temps à noter ces histoires dans mes grimoires, pour me souvenir. Quand je serai grande, je me souviendrai que ça voulait dire ça. Et en fait, c'est vrai que ça m'est drôlement utile maintenant. Et que j'adore maintenant les partager, notamment avec vous dans mes podcasts ou dans mes ateliers. Ce que je trouve, c'est toutes ces légendes ont une origine et ont une grande part de vérité, en fait. Mais pour en revenir donc à notre podcast aujourd'hui, la pierre percée a aussi un autre nom. On l'appelle la pierre d'Odin. Alors, ça fait référence déjà à Odin, bien sûr, je vais en parler juste après. Mais c'est une pierre, en fait, la pierre d'Odin existait. Parce qu'elle a été détruite par le propriétaire terrien, le capitaine Mackay, en 1814. Ouais. Parce qu'il était ennuyé, parce que tous les gens venaient et pour utiliser cette pierre. Donc c'était à la base une grande pierre dressée, qui se trouvait donc avec les autres pierres dressées de Stennes, dans l'île des Orcades. Elle mesurait environ 8 pieds de haut et elle avait un trou immense, enfin d'environ... je vais traduire en mètres, 1,50 m, qui était donc assez grand pour que les gens puissent passer la main, mais aussi passer, pour certains, les plus minces, les plus menus, les enfants passaient à travers. Donc, ce qu'ils faisaient pour prêter serment, y compris les serments de mariage. Alors pourquoi la pierre dedans? Parce que ça vient d'une légende qui fait partie des Eddas, du dieu Odin. Odin était un dieu assez facétieux et qui faisait parfois des tours assez pendables, assez drôles, voire assez, enfin, ou qui agissait aussi pour le bien de tous, quoi. Et ce dieu, donc le Odin, le père de tout, le père de tous, donc le dieu des dieux, avait le pouvoir de changer son apparence. C'est un dieu métamorphe. Et ce changement de forme a joué un grand rôle dans le mythe qui explique son lien, le lien d'Odin avec la poésie, puisqu'Odin est aussi le dieu de la poésie. Alors, je vais vous raconter vite fait cette légende. L'être le plus sage qui ait jamais vécu s'appelait Gvasir. Et en fait, les dieux l'avaient créé à partir de leur propre salive. Les nains tuèrent Gvasir. Excusez-moi. Oh, cette dyslexie, ce qui est pénible. Les nains tuèrent Gvasir. Voilà. Et mélangèrent son sang avec du miel pour former une potion qui accorderait la sagesse et le don de la poésie à tous ceux qui la boiraient. Or, un géant, a volé la potion, il l'a cachée au milieu d'une montagne et il a chargé sa fille de la garder. Je vous épargne les noms parce qu'ils sont super compliqués. Et puis bon, ça, vous pourrez les retrouver, ça va vous donner envie de lire les Eddas. Voilà, une mythologie scandinave qui est un livre extraordinaire. Et donc, le géant a caché sa potion, il a chargé sa fille de la garder, et Odin, pour récupérer cette potion qui appartenait quand même au dieu, s'est transformé en serpent et s'est glissé dans un trou dans la roche de la montagne. Et c'est de là que vient, quand on voit des pierres percées, le nom, donc pierre d'Odin, parce qu'Odin s'est transformé en serpent et s'est glissé dans un trou naturel d'un rocher. Donc, Odin est passé à travers ce trou sous la forme d'un serpent et ensuite il a pris la forme d'un géant très séduisant pour charmer la fille, la géante qui gardait la potion. Et donc il l'a si bien charmée qu'elle l'a laissé boire la potion. Seulement au lieu d'en boire qu'un petit peu, il l'a avalée entièrement. Et une fois qu'il l'a eu avalée, il s'est transformé en aigle et il s'est envolé pour Asgard. Et de là, il a rejeter la potion dans trois cuves sacrées. Quelques gouttes de potion sont tombées sur la terre pendant qu'il volait et elles sont devenues l'inspiration de tous les poètes humains. C'est une très belle histoire. Donc, en général, il y avait donc, quand on trouvait ces grosses pierres percées de trous naturels, celles qui sont assez grandes, pour faire passer un membre ou un corps, elles étaient utilisées pour marquer des périodes de transition. On disait aussi que si deux personnes joignaient leurs mains à travers donc une telle pierre, les vœux ne pouvaient plus être rompus. Et passer le corps entier à travers la pierre, était utilisé pour les rites de passage, conférant protection ou au fur et à mesure qu'on avançait dans une nouvelle phase de notre vie. Les propriétaires de bétail utilisaient des pierres percées également pour protéger leurs animaux contre les envoûtements ou pour qu'ils ne soient pas montés par des sorcières qui se rendaient au sabbat. Donc, on suspendait aussi des pierres percées à une cordelette au centre des écuries pour protéger les chevaux et les autres animaux vivants. Alors, sinon, on disait qu'une vache pouvait donner du lait aigre et que les poules refusaient de pondre. Ensuite, les pierres percées étaient largement utilisées aussi par les pêcheurs et les marins qui les trouvaient sur les plages au cours de leur voyage. Donc, quand ils en trouvaient, ils les attachaient à leur bateau pour empêcher les mauvais esprits et les sorcières d'affecter leur navire, mais aussi leur prise. On pensait, enfin, eux, ils pensaient, ces marins, ces pêcheurs autrefois, que les mauvais esprits, les sorcières maudissaient leur navire lorsqu'ils avaient des petites prises, mais qu'une pierre de sorcière empêcherait que cela se produise. Quelques histoires parlent aussi de la capacité des pierres percées de contrôler les vents en haute mer, ou plus anciennement qu'ils pouvaient même contrôler la météo. Ces pierres percées, les Hagstones, donc, sont également appelées des pierres à fées. en raison de leur pouvoir pour apercevoir les êtres, les créatures donc de l'autre monde. Si vous fermez, on dit que si vous fermez un œil et que vous regardez à travers le trou des pierres percées, vous pouvez apercevoir le royaume de Faëri. Vous pouvez voir les élémentaux ou tous les êtres du monde Faë. J'avais lu dans un livre de magie folklorique italienne qu'il pensait que les pierres féeriques, donc ces pierres trouées, peuvent être utilisées non seulement pour voir, mais aussi pour lier une fée à leur service durant pendant une durée spécifique. Donc ça, je peux vous dire que c'est une pratique qui doit être plutôt dangereuse, donc je vous déconseille de le faire. Hein. Par contre, si vous avez donc une pierre à fée, bien portez-la autour de votre cou lorsque vous êtes dans la nature, à la recherche des faëries, parce que elles vont vous aider à percevoir leur énergie plus efficacement. Pour peaufiner vos talents d'attraction féerique aussi, vous pouvez rassembler la rosée du matin dans un récipient et la verser doucement à travers le trou de votre pierre avant. Une fois qu'elle est passée à travers le trou, vous la récupérez dans un petit récipient en dessous, votre pierre. Et en fait, ensuite, ça devient presque de l'eau bénite des fées. Donc, vous pouvez vous en oindre avec, elle a un pouvoir tout à fait magique. Alors, si la pierre féerique a été trouvée dans l'océan, vous pouvez regarder l'eau à travers le trou pour, il faut être dans l'eau, hein, et regarder à travers le trou pour vous aider à découvrir les esprits de la mer, les selkies, les sirènes, etc. Si votre pierre a été trouvée dans une forêt, elle vous aide à vous connecter avec les esprits des arbres. Et la placer sur un cordon de couleur rouge est un charme très apprécié par les anciennes sorcières. Elle le portait quand le voile entre les mondes s'amincit pour se protéger des mauvais esprits. Et elle le portait également à Valpurgis, donc la veille du 1er mai, la veille de Beltan, pour connecter le monde des fées quand le voile s'amincissait. Alors, les pierres les Hackstones étaient également utilisées comme pierres de gage. Parce qu'elle donne le pouvoir de savoir si la personne devant vous vous ment quand elle vous parle, ou devant vous ou toute autre personne. Et il y a aussi des croyances, une croyance selon laquelle la Hackstone serait une représentation de la déesse et qu'elle pourrait être utilisée pour créer de puissants sorts d'amour ou pour une protection divine. Féminine. Voilà, c'est-à-dire la puissance de la déesse. Enfin, attachez-les à tout ce que vous souhaitez protéger. Si vous avez de la chance d'en avoir plusieurs, attachez-les ensemble pour donner un bon coup de pouce magique à leur puissance. Et sachez qu'elles régénèrent puissamment votre énergie. Elles rafraîchissent votre corps, vos chakras. Elles rafraîchissent aussi votre esprit et votre âme avec une énergie de guérison magnifique. Et vous pouvez les suspendre au-dessus de votre lit la nuit pour éviter les cauchemars et vous régénérer. En fin de compte, c'est une pierre vraiment terriblement magique. Donc, si vous en trouvez une, eh bien, chérissez-la et traitez-la comme l'objet sacré qu'elle est véritablement. Évitez donc, de chercher à tout prix la pierre, et en général, plus on la cherche, moins on la trouve. Mais sachez qu'elle peut venir à vous de bien des façons. Elle vous appellera si elle doit venir à vous. Et c'est là qu'elle sera donc vraiment magique. Quelqu'un aussi peut vous l'offrir. Et si vous en trouvez une et que vous en avez déjà, sachez que c'est un formidable cadeau à faire à quelqu'un que vous aimez que de lui offrir une pierre percée. Voilà. Alors, pour toute cette magie que je vous ai transmise, je remercie bien sûr tous les livres que j'ai pu lire, tous les auteurs qui m'ont inspiré pour de qui je tiens ces connaissances. Hein. Voilà, je les remercie tous. Je ne me rappelle plus forcément d'où j'ai eu toutes ces. D'abord, de bouche à oreille, bien sûr, hein, par mes consœurs, mes confrères, mais aussi par mes grands-mères, mais également voilà, de ce que j'ai pu lire dans d'autres livres. Mais bon, voilà, je me rappelle, je sais qu'il y avait un livre sympa écrit par The Gypsy Threads. C'est un monsieur qui s'appelle Ralph, je sais plus son nom de famille, mais c'était un super livre. J'avais beaucoup appris avec ce livre. Et voilà, en tout cas, j'espère que cela vous sera vraiment utile pour votre magie et que ben, vous allez trouver tout plein de pierres percées à présent et que vous saurez maintenant les utiliser avec sagesse. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une super journée et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Alors, prenez soin de vous et à tout bientôt.